Place publique.
La lutte contre les dépendances à l'alcool et au tabac en Suisse fait l'objet de pressions au Parlement de la part des fabricants. L'affirmation émane du panorama 2019 des addictions présenté hier par Addiction Suisse. Le professeur Dominique Sprumont, spécialiste de droit de la santé à l'université de Neuchâtel, nous parlera du poids des lobbies de l'alcool et du tabac d'ici quelques instants. Des exportations en hausse de 6,3% l'an dernier à 21,2 milliards de francs. L'horlogerie suisse se porte comme un charme. Les chiffres publiés récemment montrent toutefois une baisse du nombre de montres vendues. D'autres défis se présentent pour la branche, comme les difficultés de l'entrée de gamme. Le président de la Fédération de l'industrie horlogère suisse, Jean-Daniel Pache, nous a accordé un entretien. Le Jura bernois à la croisée des chemins pour penser différemment son avenir. Des représentants de la société civile de toute la région se sont réunis samedi à Tramelan pour lancer une vaste réflexion. Objectif, mieux valoriser le Jura bernois et faire valoir son identité. Le directeur de la Chambre d'économie publique du Jura bernois, Patrick Linder, et le directeur du CIP, Didier Juira, nous parleront de cette démarche.
Jusqu'à 19h, place publique. François Comte.
Bonsoir. La classe politique suisse est-elle soumise au lobby de l'alcool et du tabac? C'est la question qui peut se poser à la lecture du panorama des addictions publié hier par Addiction Suisse. L'organisme estime notamment que les fabricants et opérateurs font pression au Parlement et auprès du Conseil fédéral et combattent avec succès les restrictions imposées au marché. La phrase figure textuellement dans le document. Pour parler de cette problématique, nous recevons en direct par téléphone Dominique Sprumont, professeur à l'Institut de droit de la santé à l'Université de Neuchâtel. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors tout d'abord, ces pressions avancées par Addiction Suisse sur le monde politique, est-ce qu'elles existent réellement? Et si oui, quelles sont leur importance?
Alors qu'elles existent, ça fait pas l'ombre d'un doute. Si on prend simplement l'exemple de la manière dont le Parlement a rejeté en 2016 un premier projet de loi sur les produits du tabac. À l'époque, il faut savoir que le Conseil fédéral avait présenté un projet qui permettait à la Suisse finalement de se mettre à niveau par rapport aux mesures qui sont prises dans le reste du monde pour prévenir l'épidémie et lutter contre l'épidémie de tabagisme. La majorité des Suisses, on a des chiffres de 58% des Suisses qui souhaitent une législation qui soit restrictive par rapport au tabac. Eh ben, c'est le pourcentage des parlementaires qui ont voté contre cette législation restrictive. Ça ne s'est pas fait, évidemment, sans un certain encouragement des milieux concernés.
Alors justement, comment elles se matérialisent, ces pressions?
Bon, alors c'est clair qu'on imagine d'abord, je pense dans l'esprit des paiements directs qui pourraient aller vers les partis politiques ou l'encouragement des campagnes individuelles pour se faire élire. Mais je pense que ces éléments-là, qui sont certainement bien réels et pour lesquels il y a une initiative qui demande une plus grande transparence sur le financement des partis politiques, qui a déjà été obtenue au niveau cantonal, notamment en Suisse romande pour le canton de Fribourg. Mais ça, c'est un aspect des choses. Je pense qu'il y a un autre aspect qui est moins visible et qui est moins perceptible, c'est celui de ces pressions indirectes. Quand vous avez une entreprise qui est un gros employeur local, qui est aussi un gros contribuable, évidemment, en tant que politicien, il est compréhensible, il est légitime de réfléchir finalement avant de prendre une décision qui pourrait avoir un impact sur le maintien de cette entreprise dans sa ville ou dans sa région. Et donc ces pressions indirectes, elles sont bien réelles aussi. Et puis il y a un travail de marketing qui est plus distant par rapport à une certaine forme de liberté et comment on peut comprendre les libertés. C'est clair, de ce côté-là, les cigarettiers ont toujours été très, très convaincants sur le fait que la cigarette, finalement, c'est un choix individuel, qu'il faut laisser les gens avoir du plaisir, il faut arrêter d'interdire. Et puis, en même temps, ce discours-là, il omet totalement de mentionner que le tabac, comme l'alcool, provoque des addictions, que c'est des addictions qui sont considérées comme des maladies d'un point de vue médical, selon l'OMS, selon aussi le classement des maladies des psychiatres américains, le DSM-5. Donc on voit là un travail qui est plus diffus, pour lequel il est moins facile d'apporter des réponses concrètes, mais qui est extrêmement efficace aussi.
Alors, vous parlez notamment de l'aspect économique, l'importance économique de ces entreprises dont certaines sont basées dans la région. Mais est-ce que, justement, là, on ne touche pas au nœud du problème si on va encore un peu plus loin, c'est-à-dire l'aspect financier? On sait que, par exemple, sur le prix d'un paquet de cigarettes, il y a une large part de ce prix qui part dans les caisses de l'État. Est-ce que ça, ce n'est pas le principal frein pour une politique peut-être plus active en termes de prévention, plutôt que, je dirais, le poids des lobbies dont on parlait tout à l'heure?
Alors, vous avez raison, hein, ces entreprises créent une dépendance financière pour les cantons concernés, hein, et je crois qu'on ne peut pas l'ignorer, mais il faut regarder la situation de manière plus large. Effectivement, il y a des taxes qui sont très importantes sur les paquets de cigarettes qui sont ensuite dévolues à l'assurance vieillesse. Les montants prélevés ne couvrent même pas le coût direct des frais médicaux, ce qui sont aujourd'hui estimés à plus de 1,5 milliard de francs par rapport aux personnes qui sont atteintes dans leur santé suite à leur consommation. Et là, je parle que pour le tabac.
Donc,
il y a 4 milliards de francs qui sont perdus en termes de productivité. Ces deux montants combinés vont au-delà du chiffre d'affaires de ce que le tabac produit en Suisse actuellement. Donc socialement, on sait que le coût du tabac dépasse ce qui peut nous rapporter en termes économiques. Et donc c'est un faux calcul, même si évidemment, du point de vue des personnes responsables du financement de l'AVS, ils s'inquiètent de voir qu'il y ait moins de fumeurs. Ceci dit, moins de fumeurs, c'est moins de rentiers AVS aussi. Donc je crois qu'on doit être très prudent par rapport aux bénéfices que l'on pourrait tirer de ce commerce. C'est un bénéfice qui est entaché de beaucoup de souffrance et de mort, mais c'est aussi un bénéfice qui n'est pas confirmé par rapport au coût global de ces addictions.
Donc voir l'aspect dans sa globalité, mais j'aimerais qu'on aborde un autre point, c'est celui de la publicité. Addiction Suisse affirme que les jeunes sont aujourd'hui confrontés 6 fois plus souvent à des publicités pour le tabac qu'à des messages de prévention. Or, la publicité pour le tabac est tout de même nettement moins présente qu'il y a, par exemple, une dizaine d'années. Alors, comment vous expliquez ce qui peut paraître comme un paradoxe?
Alors, en fait, le tabac va amener plus de la moitié des consommateurs vers une mort prématurée. Et donc, il faut renouveler le stock de consommateurs et le meilleur endroit pour se servir, c'est les jeunes. Il y a une étude de 2014 de l'Observatoire des stratégies marketing pour les produits tabac qui a été publiée en Suisse romande et qui montre comment la publicité vise surtout à enrôler ces nouveaux consommateurs. Et on sait que plus de la moitié des fumeurs aujourd'hui ont commencé à fumer alors qu'ils avaient moins de 18 ans. Alors, si les cigarettiers expliquent que leur publicité ne vise pas à recruter de jeunes consommateurs, il faudra qu'ils expliquent aussi comment ça se fait que plus de la moitié de leurs consommateurs ont débuté alors qu'ils étaient mineurs. C'est difficilement compréhensible qu'ils investissent autant d'argent si ce n'était pas pour obtenir ce résultat. On a plusieurs procès aux États-Unis notamment où ce type de comportements ont été mis à jour et pour lesquels les cigarettiers ont été amenés à verser des compensations substantielles aux entités publiques, aux États et à l'État fédéral.
Bien, ce débat sur le tabac, on aura encore l'occasion d'en parler puisqu'une nouvelle loi va arriver prochainement devant les chambres fédérales après un premier refus, vous l'avez dit au début de votre intervention. Dominique Sprumont, professeur à l'Université de droit de la santé à l'Université de Neuchâtel, merci d'avoir été en direct dans Place Publique.
Place Publique.
L'horlogerie suisse surfe sur la vague du succès. Les exportations ont atteint l'an dernier 21,2 milliards de francs, en hausse de 6,3%. Les chiffres ont été communiqués la semaine dernière par la FH, la Fédération de l'industrie horlogère suisse. Les défis ne manquent pas pour autant. Baisse du nombre de montres vendues, difficulté de l'entrée de gamme ou encore risque d'une horlogerie à deux vitesses. Le président de la FH, Jean-Daniel Pache, nous a accordé une interview enregistrée hier dans les conditions du direct. Le continent asiatique a représenté l'an dernier 53% du chiffre d'affaires de la branche, en augmentation de plus de 12%. Pour Jean-Daniel Pache, l'horlogerie suisse ne court pas de risque d'hyperdépendance des marchés asiatiques.
Je constate que l'Asie joue un rôle important, c'est juste, mais finalement, l'horlogerie suisse est présente dans le monde entier. Que l'Asie représente plus de 50%, ce n'est pas un danger en soi dans la mesure où l'Asie est un grand continent, donc ce n'est pas lié à un seul pays, mais à plusieurs, il y a des développements possibles. Mais à côté de cela, l'horlogerie est bien présente aux États-Unis, en Amérique et également en Europe. Ce qui est surtout important pour l'horlogerie et pour les marques horlogères, c'est de diversifier les marchés de façon à ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, comme on dit.
On constate également dans les chiffres qui ont été publiés la semaine dernière un recul du nombre de montres vendues, c'est-à-dire en volume, recul de 2,3%. Notamment les entrées de gamme qui chutent de 5%. Comment vous l'expliquez ?
C'est un secteur qui est très concurrentiel, l'entrée de gamme. La baisse des volumes de manière générale est liée à la baisse des volumes dans l'entrée de gamme. C'est un secteur qui est très concurrentiel, déjà par le fait qu'il y a d'autres producteurs horlogers très actifs dans ce domaine. Mais il y a également d'autres produits qui viennent concurrencer les montres. Je pense aux produits cosmétiques, je pense aux produits de la maroquinerie, notamment, ou des produits bon marché de mode. Et donc là, la bagarre est assez intense. Et cette concurrence dans ce segment-là peut expliquer en partie, du moins, la baisse des volumes. C'est difficile d'identifier un seul élément, on n'arrive pas à le faire, mais en fait il y a une multitude d'effets qui expliquent cette situation.
Est-ce que on peut aussi voir l'effet de la montre connectée qui entre précisément en concurrence avec ces produits, ces montres d'entrée de gamme ?
La montre connectée est également un concurrent de ce segment, en plus des autres que j'ai mentionnés. Encore une fois, on n'arrive pas à identifier lequel de ces éléments joue un rôle, mais tous ces éléments pris ensemble jouent certainement une partie de cette explication.
Cette baisse des montres d'entrée de gamme, est-ce que c'est un phénomène tout de même qui vous inquiète pour le paysage horloger global suisse ?
J'estime que l'horlogerie suisse doit être présente dans tous les segments de prix et doit offrir finalement aux consommateurs des montres pour toutes les catégories de besoins qui sont exprimés. Et véritablement, on préfère quand tous les segments sont en hausse et nous suivons très attentivement l'évolution de ce segment de prix dans l'entrée de gamme.
On voit que l'horlogerie suisse tourne de plus en plus vers des produits de luxe, de moyen à haut de gamme, au détriment peut-être de l'entrée de gamme. Est-ce que ce phénomène-là, il se renforce et comment est-ce qu'on peut lutter ?
L'horlogerie suisse est bien présente dans le segment haut de gamme, dans le luxe. Elle est clairement leader au niveau mondial dans ce segment-là. Et c'est très bien que l'horlogerie suisse continue de se développer dans ce segment-là et dans le haut de gamme. Par contre, c'est important aussi qu'elle reste bien présente dans l'entrée de gamme. Et c'est vrai que c'est préoccupant de voir cette dichotomie. En espérant qu'elle va se résorber.
Autre dichotomie qu'on voit également, mais c'est une problématique finalement qui se regroupe avec celle qu'on vient de déterminer, on voit que en gros, les grandes marques se renforcent de plus en plus et que les autres qui sont derrière sont de plus en plus à la traîne. C'est un phénomène que vous constatez ?
C'est un phénomène que nous constatons depuis un certain temps déjà. Il n'est pas nouveau, mais il se confirme. N'est-ce pas, l'accès au marché devient difficile, implique de grands moyens pour maîtriser la distribution en Suisse et surtout dans le monde entier. Ensuite, toucher le consommateur dans toutes ses facettes différentes avec la distribution traditionnelle, mais aussi le e-commerce, la communication par les marchés, les réseaux sociaux, la communication directe avec le consommateur, tout ça exige des moyens importants. Et c'est vrai que c'est plus difficile pour les petites entreprises en général, même s'il y a des différences. On ne peut pas généraliser absolument, mais cette tendance se confirme effectivement.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'une horlogerie à deux vitesses avec des grands qui deviennent de plus en plus grands et puis des petites marques qui rament de plus en plus et qui courent des dangers de disparition ?
Le fait d'avoir des grandes marques ou des grands groupes à côté de marques indépendantes plus petites contribue à la richesse de l'horlogerie suisse. Et il est important de pouvoir conserver cette richesse. Les petites marques sont aussi peut-être très réactives, proches de leurs clients. Donc elles ont aussi leurs atouts. Et l'idéal, c'est évidemment de conserver ces différentes catégories d'acteurs horlogers, contribuant ainsi à la richesse de la branche.
On a parlé tout à l'heure de l'entrée de gamme. On reste un petit peu aussi dans ce phénomène. L'entrée de gamme, il a encore un avenir en Suisse?
Oui, absolument. Et tant qu'il y aura de l'horlogerie en Suisse, il devrait y avoir de l'entrée de gamme, même si c'est un peu plus difficile en ce moment. Il y a eu des périodes où l'entrée de gamme évoluait de manière plus positive que le secteur haut de gamme. Donc il y a aussi des périodes comme celle-là. Et j'espère que pour ce segment, elles reviendront.
J'aimerais qu'on aborde un autre point. On voit que relativement récemment, au niveau des détaillants, il y a une concentration avec des rachats d'entreprises, des groupes qui deviennent de plus en plus grands, des multinationales. Quelles sont les implications pour l'horlogerie suisse ?
Le phénomène de concentration n'existe pas simplement au niveau des marques, mais aussi du commerce de détail, que ce soit dans l'horlogerie ou dans d'autres secteurs. Il y a aussi des soucis de taille critique pour le commerce traditionnel, qui d'une manière générale est assez touché par le e-commerce, que ce soit en Suisse ou dans le monde. Et il y a aussi la volonté de certaines marques de réduire le nombre de points de vente. Tout ça amène aussi les détaillants et le commerce traditionnel à se restructurer. Donc je pense que c'est un phénomène qui n'est pas surprenant en soi.
Est-ce que ce n'est pas aussi un danger supplémentaire pour ces petites marques dont on parlait tout à l'heure, puisque de grands détaillants pourraient se limiter aux montres, à commercialiser des montres qui se vendent le mieux?
Il y a aussi l'intérêt pour les détaillants d'avoir des produits peut-être moins connus, un peu différents, pour compléter leur offre. Donc je pense que les petites marques ont aussi leur avenir chez les détaillants. Mais effectivement, il faut l'admettre que c'est plus difficile de s'imposer dans les vitrines que par rapport à des acteurs déjà confirmés.
Un autre défi qui pointe à l'horizon pour l'horlogerie suisse, c'est le développement du marché de seconde main, autrement dit l'achat de montres d'occasion. Ça, c'est quelque chose que vous constatez aussi. Est-ce que c'est un marché qui pourrait faire de l'ombre finalement aux nouvelles montres, aux nouveaux produits ?
C'est un marché qui se développe, nous le constatons. Il y a de l'intérêt pour ce type de produit du côté des consommateurs. Bon, d'une part, je dirais que ça confirme l'attractivité des montres suisses puisqu'elles peuvent avoir, semble-t-il, plusieurs vies finalement. Donc, ce point de vue-là, ça peut être positif. Après, il appartient aux marques d'intégrer cette composante dans leur stratégie. Certaines le font, d'autres moins. Donc là, c'est à chacun de définir la voie à suivre. Mais c'est un marché qui existe et à la marque, pour la marque, c'est aussi important de savoir dans quelle mesure est-ce qu'elle l'appréhende, parce qu'il y a des problèmes de service après-vente qui peuvent se poser, il y a des problèmes de certification, d'authentification du produit. Et là, les réponses peuvent différer d'une marque à l'autre.
On voit que le monde de l'horlogerie est un monde en perpétuelle mutation. On a évoqué ces différents aspects, le risque d'une horlogerie à deux vitesses, le renforcement des groupes de détaillants, le développement du marché de seconde main, les montres connectées. Globalement, l'horlogerie suisse, elle résiste bien et même très bien à ces phénomènes pour le moment.
Depuis qu'elle existe, l'horlogerie suisse a été confrontée à des challenges qui se succèdent, que ce soit des problèmes macroéconomiques, de taux de change ou d'évolution du marché horloger ou de l'évolution du produit lui-même. Il est vrai que jusqu'à maintenant, l'horlogerie s'est bien adaptée à ces évolutions. Elle est réactive, elle anticipe aussi, mais elle est en tout cas réactive et c'est de bon augure pour la suite.
Alors la suite précisément? À court et à moyen terme, on va commencer par le court terme 2019. Est-ce que on peut s'attendre quand même à une croissance moins marquée pour l'horlogerie suisse?
Nous attendons à une croissance pour 2019, mais avec les incertitudes qui subsistent au niveau macroéconomique, vraisemblablement que la croissance sera moins forte, donc elle sera plus mesurée, mais elle existera néanmoins. Donc si 2019 pouvait être une année positive, ça serait quand même la troisième année consécutive qui le serait, donc ce qui est quand même intéressant comme évolution.
Et à moyen terme, même si c'est très compliqué?
Alors, difficile de faire des pronostics, mais d'une manière générale, nous, on est confiants dans les moyens de l'horlogerie suisse de se développer parce que des potentiels existent. On a parlé de l'Asie, mais en Europe aussi et en Amérique, je pense notamment en Amérique latine, ou des nouveaux marchés comme l'Indonésie ou le Vietnam, des marchés qui pourraient peut-être s'améliorer comme le Brésil et l'Inde au niveau des conditions cadres. Donc, je veux dire que le potentiel existe et l'horlogerie a les moyens de ses ambitions en termes d'infrastructures, de formation, de know-how, de connaissances. Donc, nous sommes assez confiants dans l'avenir, tout en étant prudents face aux incertitudes économiques qui subsistent.
Et c'était donc Jean-Daniel Pache, président de la Fédération de l'industrie horlogère suisse.
Place publique.
La société civile du Jura bernois veut prendre en main l'avenir de la région. 100 personnalités issues de divers milieux se sont retrouvées samedi à Tramelan pour définir des pistes de réflexion. La démarche a été initiée par la CEP, la Chambre d'économie publique du Jura bernois, le CIP, le Centre interrégional de perfectionnement et le Forum culture. 3 pistes ont été retenues: faire valoir l'identité du Jura bernois, garder la valeur ajoutée dans la région et mettre en valeur le Jura bernois. Pour en parler, nous accueillons en direct dans notre studio de Tavannes le directeur du CIP, Didier Juillera, et par téléphone le directeur de la CEP, Patrick Linder. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Patrick Linder, tout d'abord, les réflexions menées samedi sont allées assez loin, y compris jusqu'à l'éventualité de changer de nom pour le Jura bernois. C'est le signe d'un malaise identitaire ?
Il faut saluer le fait qu'il y a une méthode, une technique qui a permis l'émergence d'une intelligence du groupe. Les solutions paraissent peut-être lointaines, mais c'est le fruit d'une réflexion collective qui a permis d'enfoncer un certain nombre de portes et de manière, je dirais, totalement affranchie intellectuellement, de poser des questions fondamentales, sans mystère. Il se dit depuis longtemps dans la région que la notion de Jura bernois en tant que telle n'est pas forcément la plus sexy pour être vendue à l'extérieur. Notre région a un besoin de positionnement extrêmement clair à l'égard de la Suisse romande. Elle a besoin d'être comprise dans toute sa complexité. Et puis, c'est une région qui a aussi besoin d'être comprise et positionnée clairement à l'égard de la Suisse alémanique occidentale, notamment le canton de Berne, qui est le cadre institutionnel dans lequel elle fonctionne. Et c'est vrai qu'il y a eu, je dirais, une unanimité qui s'est dégagée, malgré la diversité des participants, pour une réflexion fondamentale sur la façon de se présenter à l'extérieur.
Donc, y compris éventuellement sur le nom, on l'a compris. Didier Juillera, la réflexion que vous avez lancée veut éviter finalement la logique politique, vous le revendiquez. Alors, quand on parle de logique politique, on pense évidemment à la question jurassienne. Est-ce que ce n'est pas illusoire de vouloir évacuer en quelque sorte cette question, notamment en raison de l'incertitude qui plane encore autour du sort de Moutier ?
Non, pas du tout, d'une part, parce que la commune de Moutier, le sort de la commune de Moutier se décide d'ailleurs que dans les discussions, maintenant il y a une procédure juridique qui est en cours. Et je pense que la région existe indépendamment de la question de Moutier et du Jura dans l'ensemble. La région du Jura bernois existe, quelle que soit la décision qui touche Moutier à la fin. Et je pense que c'est bien et c'est sain de réfléchir à d'autres choses que à la question politique, justement.
Mais est-ce que finalement, la question jurassienne, si on veut la sortir par la porte, est-ce qu'elle risque pas de revenir par la fenêtre ?
Eh bien, écoutez, c'était le pari qu'on a fait durant cette journée. Et puis, c'est vrai que ça a réussi, à savoir qu'on a eu le matin, comme Patrick Linder l'a indiqué, les thèmes étaient apportés par le groupe. Donc, il y avait en tout une trentaine de thèmes possibles. Un seul thème qui a été proposé concernait la question politique. Et en fait, il n'a pas été traité. Donc ça signifie que personne n'avait envie de parler de ce domaine-là, en sachant qu'il y avait bien d'autres choses à discuter. Et ça a permis de faire émerger non seulement les pistes que vous mentionniez au début, mais d'autres pistes qui n'ont pas été approfondies l'après-midi, parce qu'on a dû l'après-midi se concentrer sur les pistes qui avaient été plébiscitées par la majorité des personnes présentes. Et il y a encore une quinzaine de pistes qui n'ont pas du tout été, si on veut, abordées pour l'instant et qui vont être abordées par la suite.
Alors Patrick Linder, si on revient...
C'est une analyse importante à faire a posteriori. La société civile a trouvé des convergences, a trouvé des dénominateurs communs, a trouvé des intérêts collectifs hors du champ politique. Et puis c'est tout à fait réjouissant de voir qu'il y a des endroits où des convergences inusitées peuvent exister, réunissant économie, culture, sport, des intellectuels, des penseurs, des créatifs. Et c'est vraiment ce qu'il faut mettre en exergue quelques jours après que cette première édition de la Journée des Sens se soit tenue.
Mais si on revient, Patrick Linder, à cette question de l'identité, le Jura bernois a une identité plurielle, on va dire, à la fois jurassienne, aussi bernoise. Est-ce que cette identité multiple, c'est pas plutôt un inconvénient qu'un avantage? Est-ce que c'est pas davantage une richesse que quelque chose de pénalisant?
Oui, je me fais le porte-parole de cette journée en esquissant une synthèse toute personnelle de ce qui s'est dit. Non, cette diversité, ces identités au pluriel sont plutôt perçues comme un avantage, une richesse, quelque chose à exploiter, à mettre en scène, parce que c'est vrai que ce sont un ensemble d'éléments qui nous caractérisent, ils font la spécificité de notre région et donc ils nous permettent de nous positionner nettement mieux, un vrai trait d'union entre la Suisse alémanique occidentale et la Romandie, deux cultures francophones que nous revendiquons, nous avons une place à prendre dans ce champ, et c'est une des synthèses les plus réjouissantes que je peux proposer pour cette journée à laquelle j'étais tout à fait honoré de participer.
Alors, ce qu'on peut dire aussi, Didier Juirat, quand on veut mettre quelque chose en commun, quelque part créer, non pas une nouvelle identité, mais en tout cas une nouvelle image, renouveler cette image, ben il faut trouver précisément des choses communes qui nous unissent, même un symbole à la limite. Mmh. Et bah, j'ai fait l'exercice pour illustrer l'article qui paraîtra sur notre site internet. J'ai été un petit peu embêté pour trouver une photo qui symbolise le Jura bernois. J'ai choisi un peu arbitrairement le chasseral. Est-ce que la géographie, justement, entre des micro-régions hein, qui sont quand même diverses dans le Jura bernois, entre le Cornel, la vallée de Tavannes, le vallon de Saint-Imier, la Neuville, cette diversité, cette disparité géographique, ce n'est pas un écueil finalement difficilement surmontable pour se trouver une identité commune?
Alors je dois dire que je n'ai pas la réponse à cette question, parce que sinon on n'aurait pas eu besoin de faire la journée des 100 pour la trouver. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit que le thème est nécessaire et il a été vraiment plébiscité. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un groupe de travail qui va être créé, qui va pouvoir travailler sur cette image, qui va peut-être trouver une image finalement ou une photo qui permet d'illustrer très bien l'ensemble de tous les intérêts. Peut-être pas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en tout cas, il faudra y réfléchir. Et puis le fait que la question soit posée, ça signifie qu'on a besoin de trouver une réponse. Qu'elle soit finalement totalement nouvelle ou pas, finalement, c'est pas important. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à une image qui permette en fait où toutes les personnes et tous les intérêts de se fédérer. Et pour l'instant, on a, comme vous avez fait l'exercice, vous avez vu que c'est pas facile, je pense que tout le monde dans son secteur a peut-être une image particulière. Peut-être que les décolleteurs ont une machine de décolletage. Peut-être le tourisme à Chasseral, mais en fait, entre les deux, quel est le point commun? Donc c'est ça qu'on espère qui va ressortir de ces groupes de travail. Mmh. Et finalement, c'est maintenant que le travail intéressant commence. La réflexion a eu lieu, l'intérêt est là, mais encore une fois, c'est pas que ces thèmes-là qui sont sortis, mais je pense qu'on voit vraiment qu'il y a une réelle volonté de réfléchir à l'image qu'on veut donner à l'interne et à l'externe.
Alors la volonté est là, on l'a bien compris en vous entendant. Patrick Linder, j'aimerais juste vous faire revenir sur un thème qui, là, pour le coup, vous concerne directement. C'est celui de l'économie et des entreprises.
Celui qu'on évoque actuellement nous concerne directement.
Aussi, évidemment.
On s'en préoccupe beaucoup.
Bien sûr, mais les entreprises dans le Jura bernois sont souvent actives dans la sous-traitance. Il y a finalement peu de produits finis, visibles, qui sont réalisés, fabriqués dans le Jura bernois. Est-ce que ça aussi, ça rend la région difficilement visible à l'extérieur ou pas?
Non, le fait qu'un emploi sur deux se trouve dans le secteur secondaire dans notre région est à nos yeux un atout, ça nous particularise. Il faut réviser la notion de sous-traitance. Il ne s'agit pas de villes tâches qui sont externalisées par de grands groupes et réalisées chez nous. Il faut y substituer la notion de système de production. Il y a des acteurs interdépendants qui fournissent des technologies de fabrication, des technologies de contrôle, d'autres qui les utilisent pour produire des composants. Et puis, on a un certain nombre de produits finis, emblématiques. Pensez simplement au vallon de Saint-Imier, où dans un mouchoir de poche, vous avez des montres Longines, vous avez des implants dentaires Stroman, vous avez des mouvements chez ETA, vous avez du chocolat à Courclary qui est connu loin à la ronde, et puis des micromoteurs haut de gamme qui équipent toutes les meilleures voitures du monde qui sont produits à Sonsbo. Juste quelques exemples dans un mouchoir de poche pour montrer que les compétences de ce tissu dont le dénominateur commun est la microtechnique sont probablement un des grands arguments, en tout cas un des facteurs de cohérence de cette région au plan de l'économie.
Alors Didier Juirat, on évoquait, Patrick Linder évoquait, hein, ces produits qui font la région, qui font le Jura bernois, qui existent, on ne va pas citer de marque, mais on voit tous très bien à quoi on pense. Dans le fond, alors ces produits, ils existent, pourtant on ne les identifie pas forcément au Jura bernois. Alors on dit souvent que la population du Jura bernois, elle est un peu discrète, taiseuse. Est-ce que c'est peut-être aussi là que réside le problème, et comment faire évoluer cet aspect ?
Alors, il y a beaucoup de questions dans ce que vous dites. En fait, il y a d'une part l'identification des produits à la région. Là, effectivement, quand on parle de Longines, à part ceux qui sont déjà venus voir le site, peut-être que c'est vraiment lié à Swatch Group. Et Swatch Group, c'est pas forcément le Jura bernois. Camille Bloch, oui, là, pour ceux qui connaissent Louis Courtelary, ils savent très bien. Mais je pense que Stroman, c'est plutôt chez le dentiste qu'on le voit. Donc, on pense pas forcément à Stroman pour les implants. Donc, c'est effectivement des secteurs où déjà, il faut pouvoir identifier le produit à la région. D'autre part, c'est peut-être justement le problème qu'on a. Comment est-ce qu'on peut mieux faire connaître à l'extérieur ce qui se passe dans la région ? C'est aussi effectivement une thématique qui est sortie. Comment revaloriser et comment mieux valoriser ce qui se passe ? Donc, indépendamment de l'image en tant que telle. Mais comment est-ce qu'on peut mieux faire connaître ce qui s'y passe ? Et ça, c'est, je pense, un défi à la suite. Mais encore une fois, je pense que ce qui est intéressant, c'est que la question soit posée, et au moins qu'on réalise maintenant qu'on a vraiment beaucoup de potentiel dans la région et que ce potentiel doit être connu.
Patrick Linder, il nous reste...
Pour compléter ce que dit Didier Jura...
Rapidement, parce que le temps nous est compté.
Le traitement thématique de la question de l'image n'est pas lié à des problématiques d'ego pour la région, mais répond à une série d'enjeux stratégiques, et notamment la capacité à attirer les ressources nécessaires dont les entreprises ont besoin aujourd'hui. Donc ça rencontre des enjeux économiques et ce n'est pas que des questions d'égo.
Alors un tout dernier mot avec vous, Patrick Linder. Comment va s'effectuer le suivi de vos réflexions ? En définitive, qui va ensuite prendre en charge la mise en œuvre des mesures que vous aurez définies ? Est-ce que c'est le canton qui va reprendre le dessus, ou la région, les communes ?
Non, c'est une des conditions clés de la réalisation, la capacité à inscrire la concrétisation dans la durée. Il y a des institutions qui existent, qui sont les représentants de la société civile. Pensez au Forum Culture pour le champ culturel, la Chambre d'économie publique du Jura bernois a toute la légitimité pour agir dans le registre de l'économie, également peut-être en collaboration avec Jura bernois Tourisme dans le tourisme. Donc il y a des institutions qui sont là, qui vont entendre cet appel de la société civile, qui vont collaborer avec elle si des groupes de travail se mettent en place, des synergies sont envisageables, et des institutions régionales dont c'est la mission sont à disposition pour concrétiser ces pistes.
Bien, Didier Juira, Patrick Linder, merci pour cet échange sur l'avenir du Jura bernois.
Merci à vous, bonne soirée.
Merci bonne à soirée. Vous, bonne soirée.